Mission spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques.
Bonjour, sans avoir jamais rien sur Atomic Mac. L'émission de Stop Nucléaire Drôme Ardèche. Je regarde si ça fonctionne, tout va bien. aujourd'hui, nous allons faire une émission un peu particulière, qui commence particulièrement d'ailleurs. On avait un petit problème technique là au départ. L'émission va se dérouler un peu différemment parce qu'on a décidé, après de multiples discussions dans nos équipes, mais aussi débats dans le mouvement anti-nucléaire, d'essayer d'aborder le problème du nucléaire au vu et au regard des élections présidentielles. On a donc fait appel à l'ensemble des représentants des candidats à l'élection présidentielle. Plusieurs nous ont déjà répondu. Trois vont être présents aujourd'hui. Le premier, le NPA. Le second, ce sera le Europe Écologie Les Verts. Et enfin, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et le mois prochain, on aura le Parti Socialiste. Et puis, probablement, le courant de Macron. On attend des réponses des Républicains et du Front National. Voilà pour les. Pourquoi parler du nucléaire pendant ces élections présidentielles ? Parce qu'en fait, depuis la création du nucléaire, dès les années 40-50, le nucléaire militaire bien sûr au départ, et dans les années 70, le nucléaire civil, jamais il n'y a eu de débat démocratique sur la politique nucléaire de la France. Jamais d'échange entre les différents candidats aux élections, que ce soit présidentielle, que ce soit législative, que ce soit même municipale ou locale. On a pensé que c'était important cette fois-ci d'interpeller l'ensemble de ces candidats sur leur politique nucléaire, favorable ou pas favorable, favorable à un arrêt immédiat, favorable à un arrêt dans le temps, en tout cas débattre avec eux de ce qu'ils proposeraient s'ils maintiennent le nucléaire ou s'ils l'arrêtent. Voilà, donc ce sera ce débat que l'on va lancer aujourd'hui. Mais avant cela, Georges sort ses lunettes, c'est fait, et c'est l'heure de ton billet.
Mais tout à fait, je suis présent et à l'écoute. Voilà, donc, chers auditeurs, chères auditrices et auditeurs, comme convenu, ce premier billet de l'année 2017 traite des actions des pays voisins du Japon, Taïwan, Vietnam, de l'accord du Japon avec l'Inde et des lanceurs d'alerte à Minamizoma. Alors tout d'abord le Vietnam. Le 6 novembre, on a appris que le Parti communiste du Vietnam avait demandé au gouvernement de retarder la construction des réacteurs nucléaires, car c'est très difficile de dépenser autant d'argent pour cette installation qui commencerait à fonctionner en 2028. Et c'est sous réserve d'une polémique sur la remise en cause totale de l'installation, toujours à cause du coût. En 2010, le Japon a réussi à obtenir une commande de 2 réacteurs nucléaires au Vietnam, mais à cause de la décision du Vietnam évoquée précédemment, la construction pourra être reportée à beaucoup plus tard. Alors ce sera un grave revers pour le Premier ministre japonais Abe, qui a l'intention d'exporter le plus possible de réacteurs japonais à l'étranger, pour la prospérité de l'économie japonaise, bien sûr. Selon le journal Mainichi du 7 novembre 2016. Ensuite, Taïwan. Après l'accident de Fukushima, l'opinion anti-nucléaire s'est durcie. Et en mai, Mme Tsai Ing-wen, qui a promis d'abandonner l'énergie nucléaire, a été élue présidente de Taïwan. Tous les réacteurs à Taïwan atteindront 40 années d'âge en 2025. Dans la loi qui sera révisée sur l'industrie de l'électricité, on inscrira clairement l'abandon des projets de restauration et l'arrêt de tous les réacteurs pour 2025.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Voilà. Alors, une autre, mais qui est moins bonne, c'est l'accord du Japon et de l'Inde. Le 11 novembre, le Premier ministre japonais et le Premier ministre indien ont signé un accord sur l'énergie nucléaire. Grâce à cet accord, le Japon pourra exporter des réacteurs nucléaires en Inde, y compris des produits nucléaires, des machines, des équipements et de la technologie. Le Japon a souffert et souffre encore de 2 bombes atomiques larguées sur son sol. Il a donc le devoir de proposer l'abolition des armes nucléaires dans le monde, mais le gouvernement actuel fait tout le contraire. Monsieur Sakuma Kunuhiko, représentant des victimes des bombes atomiques, a vivement protesté en disant « L'Inde n'a pas signé le pacte, les équipements nucléaires que nous allons exporter peuvent être utilisés pour produire des armes nucléaires. L'accord qui vient d'être conclu est contraire à l'objectif du TNP, en anglais traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et en conséquence, le Japon pourra se trouver engagé dans la production de davantage d'armes nucléaires en Inde. Le 27 novembre, le Japon refuse toujours de signer la résolution sur la tenue d'une session de l'Organisation des Nations Unies pour l'abolition des armes nucléaires, ce qui n'est pas étonnant. Enfin, les lanceurs d'alerte Amina Misoma, selon Kurumi Sugita, association Nos Voisins Lointains. Mais ils sont voisins quand même. Le projet de mesure de la radioactivité environnementale autour de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est mené par une équipe de bénévoles relativement âgés, qui sont moins radiosensibles que les jeunes, pour réaliser des mesures de radioactivité avec un maillage serré de 75 par 100 mètres pour la radioactivité dans l'air et de 375 par 500 mètres pour la contamination du sol. Les mesures de radioactivité ambiante et du sol sont réalisées principalement dans la ville de Minamisoma et aux alentours. Ils essaient de réaliser des mesures détaillées afin de montrer aux habitants les conditions réelles de leur vie et également d'accumuler des données en vue de l'analyse des dommages sanitaires et environnementaux qui peuvent se montrer à long terme. Dans un prochain billet, j'évoquerai les résultats de ce projet, ainsi que l'attitude du gouvernement japonais face au procès des marins américains contre TEPCO. Ceci dit, que 2017 préserve la planète Terre et toute l'humanité qui l'habite.
Merci. Merci. Ouais, bah écoute, on sait déjà ton programme du mois prochain, c'est parfait.
Voilà.
Alors, est-ce que nous avons Pierrick Duflo au téléphone ?
Oui, bonjour.
Bonjour Pierrick. Alors, vous êtes représentant du candidat Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste NPA. Donc, merci d'être présent à cette émission.
Merci à vous de nous donner l'antenne.
Voilà, c'est un plaisir. Première question un petit peu que l'on va poser à tous les candidats, donc à Philippe Poutou et à vous représentants, c'est favorable ou pas favorable au nucléaire, tel qu'il est en France, pour un arrêt ou pour continuer la politique nucléaire ?
Eh bien, très favorable à faire autrement, parce qu'autrement c'est possible, manifestement, et assez rapidement si possible. On pense qu'en moins de 10 ans, il est possible de sortir du nucléaire. Et on pense également qu'on doit changer le système en profondeur avec un véritable service public de l'énergie.
Service public de l'énergie. Bon, alors maintenant rentrons un peu dans le détail. Alors, arrêter, c'est une bonne chose. Comment on parle de l'arrêt de Fessenheim, par exemple, on voit les réactions des salariés sur l'emploi, etc. Ce ne sont que 4 réacteurs Fessenheim sur les 58 Français. Arrêter, est-ce que c'est vraiment possible ? Beaucoup de gens disent, si on arrête, c'est la bougie, quoi.
Eh bien non, c'est pas la bougie du tout. Et au contraire, on voit aujourd'hui, quand il a fait un petit peu froid fin décembre, que la bougie, elle était vraiment loin. Et on avait le nucléaire pourtant, pour soi-disant nous en protéger. Effectivement, arrêter les réacteurs tels que ceux de Fessenheim, Tricastin ou Bugey, qui sont parmi les plus vieux de France, ça fait sens, mais faut pas s'arrêter là. Faut arrêter tous les réacteurs de France parce que ça menace quotidiennement la bonne santé des Français, entre autres. Et donc, pour nous, il est nécessaire de choisir une société où on réduit les consommations électriques et où on développe les énergies renouvelables. Et c'est tout à fait atteignable. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à dire ça maintenant. On a des gens qui sont de notre avis. Enfin, ça fait consensus et ça fait partie des défis et des enjeux pour les années à venir et rapidement.
Donc si on vous entend bien, là, selon Philippe Poutou, il faut consommer moins, s'orienter vers les énergies renouvelables. Est-ce que ça suffira vraiment ? Alors, quel délai vous vous donnez pour faire ça ? Parce que vous parlez d'un programme.
Alors, nous, on pense que effectivement, il y a deux leviers. Le levier qui consiste à réduire les consommations électriques et un autre levier qui consiste à développer les énergies renouvelables. Et ça, c'est possible en moins de 10 ans. Si on prend par exemple sur la réduction des consommations électriques, il y a notamment avec un système nucléaire tel qu'il est installé, beaucoup de pertes en ligne et il y a les propres consommations électriques des centrales. On estime à 28 TWh les économies possibles en fonctionnant autrement. C'est des chiffres qui sont tout à fait consultables et sourcés sur le site de npa2009.org. On pense également que le chauffage électrique, c'est une aberration. Il y a moins de 5% des logements qui sont chauffés à l'électricité en Allemagne contre aux alentours de 30% en France. On voit que là, il y a une véritable marge. On peut chauffer le logement autrement. Sur les normes des appareils électriques, par exemple les réfrigérateurs, téléviseurs, etc., on sait qu'on peut choisir des matériels qui soient beaucoup plus économes que qu'on vend actuellement dans les magasins. S'il faut, on peut légiférer et interdire des appareils qui sont beaucoup énergivores. Idem dans le cas des éclairages publics et domestiques, ou pour les commerces et pour les industries. On a la possibilité de renverser la vapeur. Dans notre scénario, on économise 121 TWh, ce qui n'est pas négligeable. Pour information, c'est beaucoup, enfin c'est un petit peu moins que ce que présente le scénario négawatt. Ce qui veut dire que notre scénario, il est, on va dire, en bon père de famille. Voilà.
Voilà.
Donc on n'est pas très ambitieux sur la question. Après, on propose de développer les énergies renouvelables, l'éolien terrestre, le offshore, la microhydraulique, le solaire, la géothermie, la cogénération, le biogaz. Tout ça sont des options sur la table, techniquement fonctionnelles et qui ne demandent qu'à être développées pour créer de l'emploi notamment, et puis surtout choisir une société dans laquelle on a envie de vivre et pas dans laquelle on a peur.
Très bien. Et alors, autre question, mais là qui est valable quasiment à tous les candidats, c'est qu'on soit favorable ou pas au nucléaire, on accumule aujourd'hui plusieurs millions de tonnes de déchets nucléaires. Il y a eu un rapport parlementaire qui est sorti cette semaine qui s'inquiète un petit peu de la non-prévision par EDF de la gestion du démantèlement des installations qui seraient obsolètes. Qu'est-ce que vous proposez, le NPA, par rapport à ce démantèlement notamment ?
Alors, démantèlement, tellement dément. Effectivement, pour le NPA, démanteler, c'est pas une mince affaire. Alors, beaucoup de gens nous disent, si on démantèle, il faut éparpiller un petit peu les matières, les trier, et puis essayer d'en faire quelque chose. Personnellement, nous, sur le démantèlement, on se vit à suivre les recommandations des collectifs de citoyens engagés qui se battent actuellement à Bure contre l'enfouissement, parce qu'on pense que c'est absolument pas la solution. Une solution qui paraîtrait être la plus raisonnable, ce serait de quelque part sanctuariser les centrales nucléaires, ce qui permettrait de garantir un minimum d'emplois sur place, en attendant que d'autres technologies viennent en remplacement pour la production d'électricité. Et c'est ce qui nous semble le moins risqué. Qui plus est, la radioactivité décroît dans le temps. Il n'y a aucune nécessité de se précipiter pour démanteler.
Alors, une dernière petite question. Vous avez parlé de service public au début. Ça veut dire quoi, ce service public de l'énergie ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on ferait des salariés, par exemple, si on arrêtait les centrales nucléaires ?
Alors, sur le service public, aujourd'hui, on a considéré que le marché capitaliste était en passe de gérer le quotidien des gens. On se rend compte que sur l'eau ou sur l'électricité, par exemple, qui sont des biens communs qui sont nécessaires pour vivre décemment, le marché n'a pas fait que des bonnes choses. Je ne vais pas vous parler des pertes immenses en milliards à Areva, du chemin que suit EDF d'ailleurs précisément. Je vous rappelle qu'en juillet, son directeur financier a décidé de démissionner parce qu'il est convaincu que la société va au casse-pipe. Donc nous, on pense qu'un service public, c'est une façon de redonner aux citoyens la possibilité d'opérer un contrôle. C'est-à-dire que les ouvriers et les citoyens, conjointement, peuvent assurer un service public de l'énergie. Les ouvriers étant sous le contrôle des citoyens, ceux-ci pourraient fonctionner tout à fait simplement.
Oui, donc c'est et plus puis, un service public comme EDF aujourd'hui, quoi. Ce serait un service public plus démocratique.
Ah non, c'est pas du tout le même modèle, parce qu'aujourd'hui, EDF devient une société capitalistique. D'accord. Qui a fait des achats assez périlleux, notamment à l'étranger, pour développer diverses entreprises, et on se retrouve aujourd'hui avec probablement ce qu'on a quasiment à chaque fois, c'est-à-dire des profits qui sont privatisés, des dettes qui sont socialisées, c'est-à-dire qu'on se retourne vers l'usager ou le contribuable pour payer les dettes. Et ça, c'est pas entendable pour le NPA. Et en ce qui concerne l'emploi, les études sont très claires, hein. Quand on ne fait pas du nucléaire et qu'on fait autre chose, généralement on multiplie par 6 l'ombre d'emplois nécessaires. Et c'est bien la preuve que sortir du nucléaire, non seulement c'est souhaitable, mais en plus, aux yeux du quotidien de beaucoup de Français, c'est nécessaire et c'est urgemment nécessaire.
Mais qu'est-ce qu'on répond aux salariés d'EDF qui disent « bon d'accord, on va peut-être créer d'autres emplois, mais nous, concrètement, on va perdre le nôtre ».
Eh ben, on leur répond qu'il y a possibilité de se réorienter, de se former. Je tiens à rappeler que l'État français aujourd'hui a mis un grand plan de formation en place. On pense que les gens qui travaillent dans la filière de l'énergie sont des gens avec des compétences et que ces compétences, on peut les redéployer et les diversifier. Qui plus est, c'est pas parce qu'on décide d'arrêter une centrale nucléaire qu'il n'y a plus de boulot du jour au lendemain. C'est pas vrai. Ça prend beaucoup de temps d'arrêter une centrale nucléaire, y compris de programmer sa sortie. Et on a besoin des gens qui sont dans ces filières pour garantir que le traitement de la sortie du nucléaire sera opéré correctement.
Eh bien,
donc il y a plein de solutions.
Merci Pierrick, qui représentait Philippe Poutou. Vous pouvez rester en ligne pour l'instant. On va passer une petite chanson qui s'appelle Respect d'Aretha Franklin. Et ensuite, on sera en direct avec Jean-Yves Barbier d'Europe Écologie Les Verts. Mais Pierrick, vous pouvez rester en ligne si vous voulez pour l'instant.
Merci.
Eh bien, vous êtes toujours sur Atomic Mac. Et ben, maintenant, nous sommes avec Jean-Yves Barbier, qui est présent dans le studio avec nous. Donc là, c'est pas par téléphone. Représentant Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Alors, on va dire à peu près les mêmes questions. On sait bien, on connaît le programme d'Europe Écologie Les Verts. C'est pas spécialement un programme pro-nucléaire. Mais les grands motifs de votre opposition au nucléaire, c'est quoi exactement, Europe Écologie Les Verts?
Bonjour. Oui, les grands motifs de notre opposition, ils sont d'ordre, de plusieurs ordres. D'abord, au niveau économique, on se rend bien compte que c'est une technologie qui aujourd'hui arrive à obsolescence et que rien n'est prévu pour, je dirais, sa substitution. Ensuite, ils sont d'ordre indépendant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrivera à développer de plus en plus les énergies renouvelables, on sera moins dépendant de certains pays, notamment pour la fourniture d'uranium, parce qu'on n'en a pas sur notre sol, et également pour la fourniture de gaz ou d'électricité, ce qui nous permettrait des fois d'être un peu plus virulents avec certaines monarchies, avec certains pays totalitaires qui nous tiennent par le bout du tuyau. Donc voilà un petit peu le schéma, et également aussi, à l'horizon de plusieurs décennies, pardon, la création de centaines de milliers d'emplois pour remettre notre parc de logements en état, pour développer une industrie qui soit tournée résolument vers le nucléaire, on entend par... vers autre chose que le nucléaire, vers les énergies renouvelables, voilà. et on peut utiliser toutes les compétences qui sont actuellement disponibles dans ces entreprises-là afin de produire des éoliennes, de produire des générateurs fonctionnant au bois ou au granulé de bois, de produire tant des capteurs solaires qui aujourd'hui, malheureusement, sont pratiquement tous importés. Donc on n'a pas d'emploi local. Le dernier fabricant de panneaux solaires qui s'appelait Photowatt à Bourgoin a été décimé par la faute à M. Sarkozy. Donc c'est pas une avancée. On peut dire que là, il avait décidé de nous dire que l'environnement, ça suffit. Donc là, il a mis en œuvre son projet.
Donc des motifs économiques, le fait aussi donc de relancer une forme d'industrie de recherche, quoi, un petit peu sur les énergies alternatives, c'est un petit peu ça que vous proposez, quoi, concrètement. La question qui vient, qu'on va poser à tout le monde, juste derrière, vous dites qu'il faut arrêter le nucléaire, on arrête en combien de temps? Et finalement, on voit un petit peu déjà avec votre début de réponse ce qu'on envisage derrière, mais comment ça peut se faire concrètement? Pour pas revenir à la bougie, pour revenir à la fameuse expression...
Alors déjà, il faut programmer la sortie du nucléaire. En programmant la sortie du nucléaire, on va s'obliger à mettre en place des solutions alternatives. Les solutions alternatives doivent être programmées sur un plan général, comme on a fait la programmation pour la construction des centrales, comme on a fait d'autres programmations pour électrifier la France dans les années 20, comme on l'a fait pour le développement des voies ferrées. Donc, à partir du moment où on a commencé à planifier toutes ces options, on peut avancer sans risque vers l'arrêt des centrales, sans risque, je veux dire, de pénurie de rupture, d'électricité, de rupture d'électricité. Voilà. Et puis, ces centrales, effectivement, si on parle de sortie du nucléaire à 20 ou 25 ans, mais sans jamais mettre en œuvre, effectivement, les possibilités d'enclencher ce cercle vertueux, dans 25 ans, on sera encore au même stade à se dire ben, qu'est-ce qu'on fait pour, effectivement, arrêter ces centrales avec le minimum de chances de résultats. Voilà. Et puis, il y a également le risque. Ces technologies datent des années 70. On a énormément de confinement, d'air de confinement, de cuves qui sont aujourd'hui fissurées. On a trouvé dans les réacteurs du Tricastin des fissures dans le métal avec des crevasses pouvant aller jusqu'à 20 cm dans l'épaisseur du métal, ce qui n'est pas rien. Donc ces aciers de technologie 70 sont soumis à de fortes contraintes autant thermiques que chimiques. Donc ça, on ne peut pas envisager sereinement de reconstruire à peu de frais ce genre de solution.
Si on regarde bien, si on comprend bien votre projet, là, c'est arrêté de façon un peu progressive, on va dire, en mettant en place les énergies alternatives. Bon, ok, mais on a un petit problème en France quand même, et c'est l'ensemble de nos installations nucléaires ont atteint les 30 ans. Quasiment toutes, sur les 58 réacteurs, les deux tiers maintenant ont dépassé les 30 ans. On sait que dans une dizaine d'années, les 40 ans seront dépassés. Si on prévoit d'arrêter sur 20-25 ans, comment fait-on dans cette période intermédiaire? Est-ce qu'on construit des centrales nouvelles en attendant de les arrêter? Ou est-ce qu'on continue à faire vieillir nos installations existantes? C'est une question que c'est pas un piège, hein. C'est une question très précise parce que c'est un choix pour les années à venir, en sachant que si on fait durer 40 ou 50 ans ces centrales, les risques d'accident deviennent plus probables.
Alors, je pense que, effectivement, comme disait notre intervenant précédent, que sous 10 ans déjà, on peut, je dirais, orienter un programme d'économie d'énergie très important qui permettrait déjà d'en arrêter un certain nombre. Effectivement, on ne peut pas se projeter à 25 ans en disant qu'on commencera à penser à les arrêter dans 25 ans. C'est pas possible, c'est pas raisonnable. Le programme, il doit commencer dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, on met en place les outils et les options pour permettre d'arrêter ces centrales. On sait très bien qu'elles ne seront pas réparables sauf à grands frais et qu'on prend des risques à les faire continuer de fonctionner de cette façon-là. Sur les 10 ans dont parlait le collègue tout à l'heure, effectivement, c'est réalisable puisqu'il s'agit en quelque sorte d'instaurer un grand programme d'économie d'énergie, de développement énergétique avec des matériels qui aujourd'hui sont disponibles sur le marché et qu'il faudrait, pour devenir un peu moins dépendant de l'étranger, pouvoir fabriquer en France d'ailleurs. Et à partir de là, on peut réaliser des économies aussi substantielles sur le bâtiment. Des mises en œuvre peuvent se faire dès aujourd'hui pour l'isolation, pour développer les nouveaux bâtiments à énergie positive. Voilà, le scénario négawatt prévoit que aujourd'hui, on peut économiser facilement, sans rien changer à nos habitudes et sans perdre en confort, 30% de notre consommation d'électricité. Donc déjà, 30% de consommation d'électricité, c'est énorme. Ça,
donc dans les débats avec la gauche notamment, qui est entre Yannick Jadot, le Parti Socialiste par exemple aujourd'hui, sur le nucléaire, vous aurez une position qui sera donc assez ferme sur un arrêt assez rapide d'une certaine façon et pas étalé comme le prévoyait le Parti Socialiste sur...
Ah mais tout à fait, parce voilà, que on se rend bien compte qu'aujourd'hui l'étalement que propose le Parti Socialiste, c'est un étalement en quelque sorte, je dirais, de confort, parce que ça leur permet de passer 4 ou 5 élections sans avoir rien fait. Et se retrouver dans 25 ans à dire ben maintenant on vous donne la patate chaude et puis débrouillez-vous avec. Parce qu'aujourd'hui on ne voit rien poindre. On a organisé la COP21 en France, bon ça a été une vaste gesticulation hein, avec très peu d'effets, même, je dirais même à la limite des reculades. Hein, on le voit bien aujourd'hui au niveau du développement des énergies renouvelables. Hein, il y a des freins partout, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Faut savoir qu'en France, les installations, par exemple, de chaudières granulées de bois ont pratiquement diminué de 90% sur le territoire national. Les industriels ne proposent plus aujourd'hui ce genre d'équipement. C'est dommage, quoi, parce que, effectivement, la volonté n'y est pas. On laisse filer, effectivement, cette idée que dans 25 ans, ben, il y aura quelque chose qui se produira, je ne sais pas, une manne céleste qui va nous dire ben « maintenant on est prêt, on arrête tout », alors que ce sera trop tard.
Alors il nous reste 2 minutes, ça va être un peu rapide, mais tout à l'heure on avait parlé avec le représentant de Philippe Poutou des salariés du nucléaire. Peut-être vous avez un mot à dire là-dessus, parce que c'est une vraie inquiétude chez les salariés du nucléaire aujourd'hui. Beaucoup se battent pour le nucléaire parce qu'ils ont peur pour leur emploi. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ?
Non mais ça on en est tout à fait conscient. On est conscient que c'est pour ça que je parle de planification, parce que c'est une mutation profonde sur notre façon de consommer de l'énergie et de produire de l'énergie. Ces gens-là doivent être absolument associés. Les fermetures des centrales ne veulent pas dire l'arrêt immédiat, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas un interrupteur et on se dit on s'en va, on ferme la porte. Donc il va falloir de la surveillance, il va falloir toujours des compétences, il va falloir des gens qui puissent être là en permanence pour surveiller, parce que effectivement un réacteur ne se refroidit pas comme ça, parce qu'il peut y avoir des fuites, parce qu'on ne peut pas laisser ces installations sans rien.
Mais donc ce sont des emplois maintenus.
Donc ce sont des emplois maintenus. D'accord. D'autres emplois pourront être réorientés sur d'autres types d'activités. Il y a des compétences à conserver, notamment en termes de solaire, en termes d'électro-solaire, en termes d'autres choses, quoi, qui puissent être, je dirais, facilement assimilés et repris par les employés du secteur du nucléaire.
Alors dans les quelques secondes qui nous restent, je voulais poser une question sur le nucléaire militaire, mais on va parler des déchets, parce que comme les déchets démantèlement ou pas démantèlement, parce que ça commence à se poser notamment chez nous dans la Drôme avec le Tricastin, est-ce qu'il faut démanteler l'usine Georges Besse ou est-ce qu'il faut sanctuariser, c'est-à-dire ne toucher à rien, laisser sur place?
Non, on ne peut pas démanteler, parce que démanteler, ça veut dire que tous les produits du démantèlement, qu'en fait on va les stocker dans des endroits, on ne sait pas, on ne fait que déplacer le problème. Donc on ne peut pas démanteler, il faut laisser ces unités sous surveillance et attendre effectivement que la radioactivité diminue d'elle-même. Pour certains produits, ça risque d'être long, pour d'autres, ça sera un peu moins long. Mais on ne peut pas prendre le risque. Que fait-on de ce stockage de matériaux radioactifs? Ce n'est pas possible.
Ben je vous remercie beaucoup. On appelle nos auditeurs là aussi à continuer à interpeller les deux candidats qu'on a déjà entendus là. Tout à l'heure, on va avoir Didier Thévenot de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Avant cela, ben, Ma Liberté de Georges Moustaki.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette.
Et nous sommes toujours sur Atomic Mac et dans notre émission Marathon élection présidentielle. Didier Thévenot de la France Insoumise, est-ce que vous êtes au téléphone? On vous entend bien? Vous m'entendez
oui.
bien?
Oui, bonjour.
Ah ben,
oui.
Le son a l'air parfait. Bien, même question un petit peu. On sait qu'on connaît un petit peu les positions qui ont été développées par Jean-Luc Mélenchon sur le nucléaire, donc ce sont pas des positions particulièrement pro-nucléaire, on va dire. Qu'est-ce qui motive cette opposition nucléaire de la part de la France Insoumise?
Ben, écoutez, quand on regarde ne serait-ce que le nucléaire dans notre région, que ce soit la Drôme ou l'Ardèche, et la centrale du Tricastin ou celle de Cruas, et même l'entreprise FCBC à Romans, on voit bien que les problèmes sont très très nombreux. D'abord, on a un des plus vieux réacteurs de France, hein, à Tricastin. On a les plus vieux réacteurs de France après Fessenheim qui devraient fermer le Bugey. Et on propose de les rallonger, de rallonger encore leur durée de vie alors qu'ils arrivent déjà à date de péremption. Et qu'on ne peut pas changer les cuves sur ces réacteurs. Et puis quand on lit les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est affligeant. Hein. Les derniers rapports font état de faiblesses dans les facteurs organisationnels et humains pour Tricastin, d'erreurs de réalisation dans les phases de redémarrage, de rejets chimiques auxquels le Tricastin n'est pas suffisamment attentif. On parle même de bâtiments qui sont totalement encombrés par des déchets, et puis qu'il y a des problèmes de confinement de liquide, etc., etc. Et évidemment, le problème du salariat et de la reprise des salariés qui sont en sous-traitance et qui vivent véritablement un enfer par la mise en concurrence des entreprises. Et cette situation est très préoccupante. C'est la même chose à Cruas, hein. On se rappelle de la grève de la faim qu'il y avait eu en 2008, une grève de la faim qui a même fait l'objet d'un documentaire. Et là aussi, il y a des problèmes de maîtrise de l'accès de certaines zones à forts enjeux dosimétriques. Vous vous rendez compte, il y a quand même des gros problèmes de sécurité et que le nucléaire français aujourd'hui est en totale perdition par un manque de prévision et par un projet industriel qui n'est plus viable.
Ouais, donc si on entend bien votre constat, il y a urgence à arrêter le nucléaire. Quelles sont les propositions concrètes de la France Insoumise dans ce domaine? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut arrêter le plus rapidement possible? Est-ce que vous vous donnez un calendrier plus long? Et comment vous envisagez justement cette transition?
Oui, alors d'abord, on ne sortira pas du nucléaire en lui-même avant des milliers d'années, parce qu'il y a tout le traitement des déchets qui va être très très compliqué.
On est d'accord.
Donc du coup, par contre, ce qu'il faut planifier immédiatement, c'est la fermeture des centrales. Fessenheim est en train de fermer, espérons-le. Ensuite, ça devrait être Bugey très rapidement, et Tricastin, évidemment, dans les années qui suivent. Et puis, là, une chose à faire aussi extrêmement rapidement, c'est l'arrêt de l'EPR et de ce gâchis économique qui n'aboutira à rien. Et évidemment, les engagements qu'EDF a pu prendre à Hinkley Point ou ailleurs, qui vont encore plomber notre économie. Et ça, c'est la première chose. Donc, il y a des choses urgentes à faire, comme celle-ci, et fermer les réacteurs les plus anciens très rapidement. Et puis ensuite, il faut planifier. On ne peut pas sortir on peut pas fermer les centrales nucléaires comme ça en claquant des doigts. C'est absolument impossible. Tout le monde le sait. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut planifier. Il faut un nouveau projet industriel pour EDF et Areva. Il faut, on ne peut plus, par exemple, accepter qu'aujourd'hui, EDF, par exemple, en 2014, a reversé 64% de ses profits sous forme de dividendes. Vous vous rendez compte? Alors que la Cour des comptes et plusieurs rapports parlementaires disent que EDF est en train de faire face à un mur d'investissement qu'on ne sait même pas comment il va pouvoir dépasser. Donc du coup, ça veut dire que il faut travailler avec les travailleurs du nucléaire. On ne sortira pas, on ne fermera pas les centrales de production d'électricité nucléaire sans les travailleurs du nucléaire et encore moins contre eux. Il est temps maintenant que tout le monde comprenne qu'il y a une véritable responsabilité collective derrière tout ça. Contrairement à ce que dit Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, qui dit que lui, c'est un défi de redresser EDF, bah, pour nous tous, c'est pas un défi, c'est notre survie dont il est question, et c'est des milliers de licenciements et des plans de licenciements massifs qui vont avoir lieu. Ce qui veut dire que, bah, voilà, nous, on n'est pas les seuls à le dire, hein. Il y a Negawatt qui vient de ressortir son dernier rapport, qui lui préconise 30 ans pour passer à du 100% renouvelable. Mais il n'y a pas que Negawatt, on pourrait l'accuser de je ne sais quoi. Il y a aussi l'ADEME, qui est l'agence quand même de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc du coup, qui elle dit qu'en 2050, on peut à la fois se passer du nucléaire et se passer des énergies carbonées.
Oui, c'était un des scénarios de l'ADEME. Ouais.
Voilà. Donc nous on s'inscrit là-dedans. On pense qu'en 25 ans, avec la capacité technique des travailleurs, des ingénieurs et le brio de la France dans ces domaines-là, on pense que en 25 ans, on peut se passer à la fois des énergies carbonées et à la fois du
justement sur ces 25 ans, la question, on interpelle vraiment tous les candidats là-dessus, c'est toutes nos centrales ont dépassé les 30 ans quasiment, tous nos réacteurs ont quasiment dépassé les 30 ans maintenant, ou certains, ce sera dans les une ou deux années à venir. Dans la Drôme, ils ont tous dépassé maintenant. Ils auront 40 ans à l'horizon 2022-2025 pour une grande majorité d'entre eux, ça fait pas 25 ans ça, ça fait que 5, 6, 7 ans. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on étale encore un peu plus le démantèlement? On construit des nouvelles centrales, on prolonge au-delà de 40 ans? On fait quoi?
Alors voilà, c'est un véritable problème. La France se retrouve aujourd'hui devant des choix complètement inconsidérés. Il y a quelques années, de tout miser sur le nucléaire et sous prétexte d'indépendance énergétique, ce qui n'est absolument pas vrai, à tout miser sur le nucléaire. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est devant des dilemmes. Il va falloir à un moment donné que l'on trouve des solutions. Alors quand j'ai parlé évidemment de 100% renouvelable, ça veut dire qu'il faut un énorme effort maintenant sur deux aspects qui semblent essentiels, sans quoi on n'arrivera à rien. C'est la sobriété énergétique, parce que l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il va falloir faire un effort énorme de sobriété énergétique, essayer d'accélérer les choses de ce point de vue-là, avec l'efficacité énergétique évidemment. Et puis la deuxième chose, c'est travailler évidemment sur le stockage de l'énergie, qui est peut-être une solution pour demain. Et effectivement, on sera face à un dilemme à un moment donné, face à un véritable problème, et il faut le réduire au maximum pour ne pas prolonger les centrales plus longtemps qu'elles ne peuvent l'être, parce que il n'est pas certain que nous puissions mettre en place, que la France ait les moyens de mettre en place techniquement, ne serait-ce que techniquement, un remplacement avant que certains réacteurs n'arrivent aux 40 ans fatidiques pour nous.
D'accord. Bon, je vous relance pas sur l'affaire des salariés, vous en avez un petit peu parlé. Une question qui est également d'actualité, là, c'est la question du démantèlement, parce qu'il y a un rapport parlementaire vient de sortir sur le sujet. Et la question, vous disiez tout à l'heure, on sortira pas du nucléaire parce que les déchets, on les a, il y a des tonnes, il y a des milliers. Est-ce qu'on doit démanteler les installations que l'on va fermer, ou que doit-on en faire exactement?
Ça, c'est une très très bonne question, et c'est un problème qui est extrêmement inquiétant aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, on a vu à Bure les approximations légales, techniques et démocratiques des dirigeants du nucléaire, hein, avec l'enfouissage des déchets, qui n'est pas la bonne solution pour nous, parce que nous considérons qu'il vaut mieux les laisser en surface et trouver les moyens de les surveiller, ce qui pose un autre problème, parce que c'est de la surveillance sur de l'extrêmement long terme. Mais surtout, le problème là qui arrive, qui est, je crois, à traiter de toute urgence par rapport au démantèlement, c'est d'abord une formation extrêmement pointue des travailleurs français quant au démantèlement. On peut faire de la France un des fleurons du démantèlement international en termes de nucléaire. Et moi, ce qui m'inquiète plus particulièrement aujourd'hui, c'est une partie des déchets qu'on appelle les déchets TFA, de très faible activité, puisque l'IRSN a évalué à peu près à 2 millions de mètres cubes de déchets TFA qui vont arriver avec les premiers démantèlements, que le seul site qui existe aujourd'hui de stockage est à saturation, déjà quasiment, puisqu'en 2020 il sera totalement à saturation. Mais le problème, c'est que l'IRSN, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais l'IRSN préconise de minimiser et de partager les risques liés à ces déchets et propose donc de recycler dans le domaine public les déchets TFA, donc des déchets radioactifs qui pourraient être recyclés dans le domaine public, donc dans des...
Oui, les remblais, les constructions de routes, les machins comme ça, les bâtiments. Ouais.
Les routes, les gravats dans les routes, pour faire des terrains de foot, etc. On pourrait se retrouver dans le domaine public avec des déchets qui sont radioactifs, dont la traçabilité sera évidemment impossible, hein, parce qu'à partir du moment où vous avez fait des poussettes, vous ne savez pas où elles vont, et que l'usine qui devrait s'occuper de ça dans quelques années, puisque c'est l'objet d'un décret qui est en préparation aujourd'hui, devrait se trouver sur le site de Tricastin, justement. Donc je pense que une des premières choses à faire sur le démantèlement, c'est exiger que aucun des déchets ne sorte dans le domaine public et reste dans le domaine nucléaire, avec après un travail, évidemment, à mon avis, avec les ingénieurs et ceux qui savent faire, pour savoir exactement ce qu'on en fait. Mais l'idéal, ce serait évidemment de les laisser sur place.
Il nous reste quelques secondes, un peu moins d'une minute. Assez rapidement, dans le mouvement anti-nucléaire, il y a une certaine hostilité au service public. EDF, c'est le méchant, donc le service public, c'est le méchant. La position de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise sur le service public, privatisé, service public.
Non, nous on est au contraire pour un grand pôle public de l'énergie. Ça répond à deux exigences essentielles. La première exigence, c'est d'abord que nous on veut inscrire la règle verte dans la Constitution pour que enfin la question écologique soit la question principale de nos engagements vis-à-vis de l'industrie, par exemple. Et puis la deuxième chose, c'est de conserver l'égalité des prix sur tout le territoire. On ne peut pas créer une énergie qui serait moins chère à certains endroits parce que les moyens le permettraient et qui serait plus chère pour d'autres partie de la population parce qu'elle n'y aurait pas accès. Donc il est possible aujourd'hui de créer d'un côté un grand pôle public de l'énergie tout en conservant les initiatives locales et les circuits courts de distribution et de production locale d'énergie, comme par exemple des coopératives locales, ce qui veut dire que d'un côté la production pourrait être déconcentrée, mais la distribution, elle, et la tarification doit nécessairement être nationale pour conserver l'égalité sur tout le territoire.
Eh bien, merci Didier. J'espère que tous les trois aujourd'hui vous aurez été intéressés par notre initiative. On n'a pas posé de questions sur le nucléaire militaire. On va voir si d'ici les élections, on ne pourrait pas refaire une émission comme ça sur le nucléaire militaire, ça pourrait être aussi très intéressant. Merci en tout cas à vous trois, Didier Thévenot pour la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, Pierre-Yves Duflot du NPA pour Philippe Poutou et Jean-Yves Barbier d'Europe Écologie Les Verts pour Yannick Jadot, et à notre prochaine émission le mois prochain, où nous aurons plutôt des parties qui sont un peu plus pour le nucléaire. Cette émission a été réalisée par Jean-Pierre, notre technicien, par Jeanne, par Georges, Dominique. On était un peu moins nombreux aujourd'hui, mais on avait des invités. C'était ça aussi, la nécessité. La prochaine émission, eh bien, ce sera le 7 mars, si mes souvenirs sont bons. Le 7 mars, je crois. Oui, ça, bon, pas grave. Début mars, premier lundi du mois de mars. Notre répondeur, le 08 05 69 67 58. L'appel est gratuit. Et puis, vous pouvez nous réécouter également sur Radio Déclic, Radio DWA à 10. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Alors, on me dit que je n'ai pas dit les deux, trois choses agenda. Alors, c'est au mois de mars notre agenda essentiellement. Mettez quand même dans votre tête, le 11 mars, rendez-vous au Parc Jouvet pour une grande chaîne humaine. Et la projection du film débat Munen au navire le 21 mars, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et ce sera justement avec des Japonais, les voisins, comme on dit tout à l'heure. Voilà, nous vous souhaitons une bonne journée et on finit avec Le Prisonnier, Les Amis de ta femme.
Sur la route, les deux poings liés. Un soldat se trille sur la route avec ses vieux souliers. Tout le long de la ville, il y avait des veuves. En le voyant si triste, ce n'était à pleurer. Marche, brave soldat, marche. Marche, brave soldat, marche. Sur la route, marche, t'en fais prisonnier. Ils l'ont mis dans une forteresse, les deux poignets liés. Une forteresse accrochée par les pieds. Des hommes sont venus, des lames affilées, le sang sur sa peau nue commence à ruisseler. Parle, brave soldat, parle. Parle, brave soldat, parle. Car tu es prisonnier. Si je dis ce que je ne veux pas dire, je pourrais m'en aller. Si je dis ce que je ne veux pas dire, ils vont me libérer. Mais si je veux taire, jamais ne reverrai ma femme ni ma mère et mes enfants te lait. Pleure, brave soldat, pleure. Pleure, brave soldat, pleure. Il faut que tu pleures comme les prisonniers.